This is scientific, la balado de la science et de la raison.
Épisode 67, pour le samedi 18 septembre 2010, la vague belge. Bienvenue sur Scepticisme scientifique, je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le balado Jacques Scorneau, qui est un ufologue et un sceptique, donc ce que j'ai baptisé un ufo-sceptique. Et je lui ai demandé de venir nous parler d'un sujet vraiment passionnant, la vague belge. Je suis particulièrement heureux d'avoir Jacques comme invité sur le balado aujourd'hui, parce qu'à l'époque où j'ai découvert à la fois le monde de l'ufologie et le mouvement sceptique contemporain, Jacques Scorneau a été une des premières personnes avec qui je suis rentré en contact et avec qui j'ai eu des longues discussions sur ces sujets. Je dois dire qu'il a joué un rôle important pour me faire découvrir la version en tout cas francophone, c'est-à-dire le modèle socio-psychologique ou l'hypothèse réductionniste composite sur donc, la manière sceptique d'aborder le phénomène OVNI. Et donc je suis très content qu'aujourd'hui il vienne nous parler de cette incroyable vague qui s'est passée en Belgique entre 1989 et 1990-92. Donc aujourd'hui, je suis avec Jacques Scorneau, qui est un vieux loup de l'ufologie et qui a publié pas mal d'articles sur le sujet, particulièrement pour vulgariser les travaux de Michel Monnery. Et aujourd'hui, je l'ai invité pour discuter avec lui de la vague belge d'OVNI. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Alors, pour commencer, pour les auditeurs, j'ai des auditeurs en France, au Canada, etc. On peut un peu peut-être leur raconter qu'est-ce qui s'est passé en Belgique entre 1989 et 1992.
Eh bien, le 29 novembre 1989, deux gendarmes, donc des témoins en principe tout à fait dignes de foi, et de nombreux autres témoins dans la région de la Belgique qui borde la frontière allemande ont vu des phénomènes inexplicables qui se présentaient en général sous forme de grands triangles sombres qui possédaient trois feux disposés donc en triangle à leur coin et une petite lumière rouge centrale. Donc ces observations, notamment du fait que des gendarmes étaient parmi les principaux témoins, on fait l'objet d'une large diffusion dans la presse belge, et on peut dire que pratiquement tous les journaux belges du surlendemain ont publié des articles plus ou moins développés sur ces observations, donc près de la frontière allemande, et notamment la petite ville belge, mais de langue allemande, qui s'appelle Eupen. Et dans les jours suivants, on a commencé à voir ce genre de phénomène, donc généralement triangulaire, dans divers coins de Belgique, d'abord dans la province de Liège, à proximité des premières observations, puis ensuite c'est étendu à peu près à tout le pays. Et comme il y avait à l'époque en Belgique un groupe ufologique appelé SOBEPS très actif, ce groupe évidemment a lancé des enquêteurs sur les lieux, a publié dans sa revue de nombreuses enquêtes, a été interviewé plusieurs fois à la télévision, à la radio, dans les journaux, si bien que l'action de ce groupe a contribué évidemment à entretenir la vague. Et on peut dire que les observations les plus intéressantes se déroulent, disons, dans les 6 à 12 premiers mois de la vague, qu'ensuite elles se prolongent avec des petits sursauts donc de reprises d'observations de temps en temps, jusqu'en 1992, mais disons que grosso modo, parlons plutôt de la vague de fin 89 à 1990.
Quand on lit Vague d'OVNI sur la Belgique, donc l'ouvrage qui a été publié par la SOBEPS à l'époque, donc la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux, on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment inexplicable de manière prosaïque. On est face à une sorte d'invasion extraterrestre du territoire belge, et il y a un côté vraiment impressionnant. On se dit, mais oui, ça c'est impossible, ça ne peut être qu'extraterrestre. Comment est-ce que toi tu abordes les choses?
Mais c'est-à-dire que si on prend les choses littéralement, si les témoins ont vraiment vu des phénomènes de taille parfois assez gigantesque, on parle de taille de plus de 100 mètres parfois, parce qu'il n'y a pas que des triangles, il y a aussi d'énormes rectangles que l'on voit passer dans le ciel, cela semble à très basse altitude, donc cela a des feux qui sont vraiment parfois d'une grande intensité. Donc si on prend littéralement les informations que les témoins donnent sur la forme, sur la taille, sur la luminosité des feux, c'est évident que, littéralement, c'est inexplicable. Et c'est bien la position que la SOGAP a défendue largement et qui a été répercutée donc largement dans la presse, c'est que, dans ces conditions, l'hypothèse, et l'animateur de la SOGAP, M. Interbeau, prenait toujours la précaution, il faut le reconnaître, dire, je souligne trois fois le mot hypothèse, l'hypothèse la plus vraisemblable, donc selon la SOGAP, c'était que ça ne pouvait être que des engins extraterrestres qui nous observaient. Et je pense que le principal problème d'interprétation vit justement dans ce mot littéralement. Et la grande question à se poser est-ce que l'on doit vraiment prendre littéralement ce que disent les témoins d'OVNI ? Alors, évidemment, c'est les croyants diront qu'insister sur la fragilité des témoignages humains, c'est un peu une idée reçue, un jacassin, une vieille lune, que si le témoignage humain était vraiment si peu fiable que ça, il y aurait d'innombrables erreurs judiciaires, puisque bien les condamnations reposent sur des témoignages uniquement. À ça, il faut répondre que, bien sûr, on peut penser que, grosso modo, le témoignage humain est fiable, qu'il ne faut peut-être pas comparer les témoins d'OVNI à l'ensemble des témoins qui interviennent en justice, mais plutôt, je dirais, à l'ensemble ou sous-ensemble, disons mathématiquement, des mauvais témoins. Parce que des erreurs judiciaires fondées sur des témoignages, mais il y en a évidemment. Et peut-être plus qu'on ne pense, parce que la justice n'aime pas revenir sur sa décision, en particulier la cour d'assises. Il est extrêmement difficile juridiquement d'inverser une décision du sacro-saint jury populaire, et les révisions de procès d'assises sont même très rares. Mais raisonnons un petit peu, avec quelques chiffres. Là, je sors un peu du cas strict à vague belge, mais il faut même voir les choses avec un peu de recul. Même en ne prenant que les pays dont les témoignages nous parviennent facilement, des pays grosso modo de civilisation occidentale ou occidentalisée, on peut dire que chaque jour, il y a des milliards de personnes, disons 1 à 2 milliards, en nous en tenant aux pays d'où les témoignages peuvent arriver facilement. Il suffirait qu'une personne sur 1 million parmi ce milliard d'observateurs potentiels qui chaque jour regarde le ciel, qu'une sur 1 million fasse une erreur d'interprétation grave de ce qu'elle a vu, pour qu'on ait largement de quoi expliquer la totalité des observations d'OVNI. Parce qu'une erreur sur 1 million, c'est infiniment peu. Hein. Le nombre d'erreurs judiciaires dont je parle à l'instant, il est sûrement largement supérieur à un cas sur 1 million. Donc il n'est pas du tout nécessaire de supposer que ces mages humains, en général, pas plus fiable, pour pouvoir expliquer les observations d'OVNI, il suffit de supposer qu'un très petit pourcentage d'êtres humains se trompent de temps en temps fortement pour expliquer le nombre existant d'observations d'OVNI. Dans la plupart des cas, il n'est même pas nécessaire de supposer une erreur grave. Hein. Puis, en des cas, on peut assez facilement identifier la source comme étant un avion, un hélicoptère, la Lune, une météorite, Vénus, Mars, etc. Seuls les cas les plus rares, des cas assez rares, comme justement les cas principaux de la vague belge, exigent de supposer, si on ne veut pas tomber dans une hypothèse extraterrestre qui, sans être impossible à mon sens, n'est quand même pas la première à invoquer, là on pourra pas déjà longuement discuter de cela, extraterrestre, dans quelle mesure est-elle vraisemblable ou invraisemblable, c'est un débat énorme qui prendrait des heures à lui seul. Disons que cette hypothèse, moi, elle ne me paraît pas impossible, elle me paraît simplement inutile, ce n'est pas la même chose, vu qu'il y a des possibilités d'explication par des erreurs humaines, des erreurs de perception, d'interprétation de ce qui est perçu, assez graves. Parce qu'enfin, revenons donc au cas de la vague belge. les cadres de triangle, vous savez, dans le ciel. Il apparaît certains cas que les témoins, en toute bonne foi, sans doute, ont exagéré. Prenons le cas des deux gendarmes, donc le soir du 29 novembre, 80. Ils voient un énorme objet qui sont l'air, trois lumières en dents, blanche avec un lumière rouge centrale, qui passe à basse altitude et à faible vitesse. Ils s'arrêtent au bord de la route pour mieux l'observer, et d'après eux, la luminosité qui émane de ces trois phares en triangle est supérieure à celle de l'éclairage d'un terrain de football lors d'une nocturne. Mais en même temps, ils nous disent, c'est pas sceptique qu'ils disent, mais eux-mêmes, ils nous disent que des voitures sont passées sur la route pendant qu'ils observaient ça, et aucune ne s'est arrêtée. Alors cet objet était à quelques dizaines de mètres au-dessus d'un pré voisin de la route. Si vraiment cette lumière avait été si intense que ça, il y aurait une partie des voitures passant sur cette route assez importante où se trouvait qui se serait arrêté pour regarder aussi. Donc il me paraît évident que dans ce cas-là, il y a au moins eu une exagération inconsciente de la part des témoins quant à l'intensité de la lumière. Maintenant, ceci est très difficile à faire admettre aux croyants parce que justement les témoins sont des gendarmes. Être gendarme suppose, a priori, une honnêteté certaine, une objectivité, mais ça n'implique pas que ces gens sont indemnes de toute observation modifiée par des convictions préalables, par les mauvaises conditions d'observation, à la nuit tombée que ça s'est passé. Nul n'est infaillible, il n'y a pas de témoin parfait. Et être gendarme n'est pas être prédisposé à pouvoir identifier facilement tout objet naturel artificiel qui peut se trouver dans le ciel. C'est pas ça la formation d'un gendarme. Il peut être apte à estimer la vitesse d'une voiture qui passe sur la route, ça va dépendre de sa compétence, mais un objet qui passe dans le ciel, c'est autre chose. Et puis, il y a aussi ce phénomène bien connu, qui était la psychologie élémentaire, c'est qu'en deux personnes qui se connaissent bien, qui se font confiance, c'est le cas des gendarmes qui patrouillaient souvent ensemble, se voient ensemble quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils en auront parlé, ils se sont influencés l'un l'autre, et rapidement, ils sont arrivés à un consensus qui était inexplicable. Mais ça, c'est un psychologue classique, ça n'implique en rien qu'ils ne se soient pas trompés tous les deux, que l'un peut-être un peu plus crédule que l'autre n'ait pas influencé l'autre, qu'ils en soient arrivés à une conclusion fantastique qui n'était pas vraiment justifiée. On peut d'autant plus le penser que dans la suite de la soirée, ils sont rentrés d'abord à la gendarmerie de Penne, puis ils sont repartis sur la route, ils ont, dit-il, à ce moment-là, revu l'objet. Mais quand ils l'ont revu, c'était plus un vaste triangle, c'était un point lumineux. Alors l'objet s'est éloigné. Ils l'ont poursuivi, quand il s'arrêtait, l'objet s'arrêtait, quand il repartait, l'objet repartait. Ça déjà, c'est mal à plus à l'oreille que dans cette seconde partie d'observation, il est manifeste que c'est un objet céleste qu'ils ont observé, et d'après la position où il se trouvait, c'était pas loin de la position que Vénus devait occuper à cette heure-là dans le ciel. Donc cette seconde partie d'observation, l'affaire me paraît réglée, mais ce n'est pas admis par les croyants parce que ce n'était pas tout à fait la position de Vénus. Mais comme on ne sait pas exactement l'heure à laquelle il se trouvait, il y a une demi-heure à peu près d'incertitude sur l'heure, ils ont vu cette seconde observation, ça peut expliquer qu'on ne puisse pas déterminer une précision totale si ça correspondait ou non à la position de Vénus. Mais n'empêche que pour les croyants, cette observation, donc en deux phases par des gendarmes, était évidemment pain béni, parce qu'on ne conteste pas ce que disent les gendarmes. Hein? Moi, je dis que même des gendarmes peuvent faire éventuellement une erreur d'observation assez importante. Et bien, mais ceci dit, si c'est pas un engin extraterrestre, qu'est-ce que ça peut être? Là, évidemment, on a plutôt, je dirais, une pléthore d'explications possibles qu'un manque, parce que déjà, à Eupen, dans le jour suivant, quand les enquêteurs de la SOBEP sont venus enquêter, il y a des gens qui ont dit « Oui, on sait ce que c'est. C'est des ULM venus en Allemagne qui transportent de la drogue. » Bon, dans l'hypothèse, transport de drogue est à rejeter parce que dans ce cas-là, on serait très discret, on n'aurait pas des lumières qui éclairent fortement, car même si les gendarmes ont peut-être exagéré l'intensité, il ne reste pas moins le fait que ces objets étaient éclairés, bon, ce qui ne serait pas le cas d'un contrebandier de drogue. Bon. Mais n'empêche que l'hypothèse ULM, elle, est vraisemblable. Parce qu'il y a une autre série d'observations qui intervient vers la mi-décembre, donc une quinzaine de jours plus tard, dans un autre coin de Belgique, entre Namur et Charleroi, le long d'un vallée de la Sambre. Il y a plusieurs observations dans la même soirée de cette région-là. Et c'est aperçu, il faut bien dire, les sceptiques sont aperçus 20 ans après, parce que c'est pas les croyants, a priori, qui allaient enquêter là-dessus, qu'il y avait dans les environs de cette observation, non pas un, mais deux petits aérodromes qui accueillaient des ULM. Alors, bien sûr, si on pourrait comprendre que, à la suite d'observations du 29 novembre, 15 jours après, des petits plaisantins aient dit « on va jouer à l'OVNI, on va mettre trois feux en triomphe sur notre ULM et on va un petit peu effrayer les gens ». Cette hypothèse me paraît parfaitement vraisemblable, au moins pour ces cas de la mi-décembre. Évidemment, la réponse des croyances, oui, mais plus de 20 ans ont passé, même si ce qu'ils ont fait était interdit, parce qu'en effet, les ULM ne pouvaient pas voler de nuit. Maintenant, ils ne risquent plus rien, il y a prescription. Pourquoi ne l'avouent-ils pas 20 ans après? Il y a une très bonne raison, que vous ne pourrez toujours pas l'avouer, c'est qu'il n'y a pas que des raisons juridiques, il y a aussi des raisons sociales, je dirais. Ces gens qu'on peut deviner jeunes, dans la vingtaine à l'époque, maintenant, 20 ans après, ils sont peut-être de respectables cadres d'entreprise, de respectables professeurs ou fonctionnaires, que sais-je, et ce serait inavouable socialement qu'ils ont fait le mariole avec un ULM il y a 20 ans. Donc c'est une hypothèse qui reste envisageable. Une autre, c'est celle de demi-dirigeable. Parce que on sait qu'à l'époque, un demi-dirigeable, dont certains, j'en ai vu la photo, portaient d'ailleurs trois lumières en triangle en dessous, ont été construits par un inventeur un petit peu farfelu, il faut bien le dire, mais enfin ces dirigeables ont volé. J'ai vu des films les montrant voler, mais ils n'étaient autorisés à voler qu'en intérieur. Ils volaient dans de grandes halles de fêtes ou d'expositions lors de justement d'expositions, de cérémonies, de grandes manifestations culturelles ou publicitaires. Ils n'ont jamais l'autorisation de la régie des voies aériennes belges de voler en dehors. Ceci dit, rien n'empêche que l'inventeur lui-même ou quelqu'un qui lui aurait acheté un de ces petits dirigeables n'est pas là aussi enfreint à la loi. Et pour les mêmes raisons sociales que je viens de dire pour le cas de l'ULM, il n'aurait toujours pas avoué 20 ans après. Donc, il y a des explications possibles. Mais encore une fois, on nous rétorque toujours la qualité extrême des témoins, parce qu'il n'y a pas que les gendarmes du 29 novembre, lors de la petite pointe d'observation de la mi-décembre 89, l'un des principaux témoins, qui a vu donc de nouveau un engin bizarre, de lumière en triangle, est un officier d'aviation, un lieutenant-colonel d'aviation. Et là, évidemment, surtout quand on a un petit peu envie d'y croire a priori, c'est donc c'est aussi un témoin qu'on accueille avec le plus grand respect. Et étant donné que dans ce cas précis-là, on avait aussi évoqué l'hypothèse d'un hélicoptère, les croyants nous ont dit de manière péremptoire, un lieutenant-colonel d'aviation n'aurait pas manqué de prendre un hélicoptère. Évidemment, un lieutenant-colonel d'aviation, on peut penser que si l'engin observé est un engin volant connu, donc hélicoptère, dirigeable, ULM, etc., il serait sans aucun doute plus qualifié qu'un témoin ordinaire pour les identifier. Mais disons que c'est plus probable, beaucoup plus probable, mais pas infiniment probable, pas certain, parce que même un expert peut, dans un certain domaine, peut de temps en temps dans sa carrière commettre une grosse erreur. Moi, si je peux risquer ici ma définition personnelle de ce qu'est un expert, ben, la voilà. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui, dans son domaine de compétence, se trompe moins souvent que la moyenne des gens. Parce qu'évidemment, l'infaillibilité, ça n'existe pas. Et ce soir-là, encore une fois, le soir était tombé, dans l'obscurité, les choses sont reconnues moins facilement, on peut faire des erreurs d'appréciation de distance, ce qui évidemment se répercute sur l'estimation de la taille et de la vitesse de l'objet. Donc, est-ce que ce brave lieutenant d'aviation n'a pas ce soir-là commis une grosse erreur? Et là aussi, toujours le contexte social qui joue, si jamais il s'en était un jour aperçu, que ce qu'il avait vu était en fait explicable, il ne l'avouerait jamais. Son nom apparut dans le livre d'Assobeb, dans les journaux. 20 ans après, il a été réinterrogé par l'un des principaux animateurs de l'ex-Sobeb, puisque la Sobeb a disparu en 2007. Il a répété son histoire. Quelqu'un qui est tellement engagé ne peut, je crois, psychologiquement, socialement, plus reculer. Mais voilà, la question que je pose est de fond la suivante. Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire, le plus fantastique, le plus invraisemblable? Est-ce qu'un homme, en principe compétent dans le domaine considéré, commette un jour, peut-être la seule dans sa vie, une grosse erreur d'interprétation, ou bien que des engins extraterrestres sont venus pendant quelques mois se balader sur la Belgique, et presque uniquement sur la Belgique, en s'amusant à apparaître comme ça, de ci, de là, avec des feux extrêmement forts, comme s'ils voulaient expressément se faire voir. Voilà, je pose la question. Pour moi, j'ai ma réponse, mais ceux qui veulent à tout prix croire aux ovnis n'ont pas la même. Alors qu'une hypothèse que je voudrais évoquer, qui elle aussi, diront certains, n'est pas très vraisemblable, mais encore une fois, qu'est-ce qui est plus vraisemblable, l'extraterrestre ou une hypothèse d'erreur humaine, c'est une hypothèse militaire. Bon, je ne veux pas dire par là qu'on aurait pu faire des essais d'avions furtifs, F-117, comme ça a été évoqué à l'époque, par des sceptiques, mais les sceptiques qui ne connaissaient rien, ne me connaissaient mal la question, parce qu'enfin, on a bien vu cette ovni à la vitesse très lente, ou même s'arrêter. Bon, s'il y a eu arrêt, là, ça implique que c'est un engin humain connu, que ce serait hélicoptère ou dirigeable. Bon, faible vitesse, ça peut aller aussi pour un ULM. Mais ça ne veut certainement pas aller pour un avion, que ce soit l'avion furtif F-117, que ce soit l'AWACS, l'avion radar AWACS, c'était invoqué aussi ça. Là, vraiment, par de ce genre d'interprétation, certains sceptiques se sont ridiculisés et ont finalement fait le jeu des croyants. Non, à ce à quoi je songe plutôt, dans le cas d'une hypothèse, disons, militaire, c'est des manœuvres secrètes mettant en œuvre hélicoptère ou peut-être mini-dirigeable ou ULM. Et évidemment, les manœuvres secrètes entraînent immédiatement la question, mais pourquoi des lumières assez fortes à ce moment-là? Eh bien, pourquoi pas supposer qu'on a voulu faire une expérience pour voir comment la population réagirait? Il y a au moins eu un cas aux États-Unis, il y a bien longtemps, dans les années 60, c'était raconté par Alan Hynek, un croyant, lui, dans un de ses livres. Il devait reconnaître que dans le Mississippi, ou quelque part par là, dans le sud des États-Unis, l'armée américaine avait un jour provoqué de faux ovnis par des fusées éclairantes et autres artifices pour voir quelle serait la réaction du public et comment la population réagirait à de tels phénomènes lumineux. Alors, est-ce qu'une expérience du même type n'a pas été tentée en Belgique fin 89? La question peut être posée. Alors, par définition, si c'était quelque chose de secret, si on voulait avoir des réactions spontanées du public, il ne fallait pas le dévoiler. Alors, on dit oui, mais on dit que l'officier militaire de haut grade qui a été en contact avec la SOBEPS à l'époque, qui a fait des conférences de presse, qui a accepté de parler publiquement, donc le lieutenant-colonel de Brouwer devenu général peu après, que donc ce général d'aviation a affirmé à plusieurs reprises hautement que non, ce n'est pas militaire, ce n'est pas l'armée belge, ce n'est pas non plus une armée étrangère, aucune armée de l'OTAN, américaine ou autre, ne procède des manœuvres de la Belgique sans que nous soyons prévenus. Bon. Et tous ceux qui ont été en contact avec ce général de Brouwer conviennent que c'est un homme qui semble d'une parfaite bonne foi. Alors ça, je répondrai que par deux hypothèses possibles d'ailleurs, ou bien pour que la manœuvre soit vraiment secrète, pour qu'on ait une réaction vraiment spontanée de la population, qu'on soit sûr que rien ne transpire, eh bien, exceptionnellement, l'armée belge n'a peut-être pas été prévenue de cette manœuvre venant sans doute d'Allemagne, parce que il faut pas oublier que les premières observations, les premières semaines de la vague, ont essentiellement été vues d'abord donc, près de l'Allemagne. On a même vu les objets qui venaient de la frontière allemande qui retournaient ensuite, donc l'hypothèse d'une intrusion d'engins militaires ou non venus d'Allemagne n'est pas à rejeter. Ensuite, bien sûr, c'est étendu dans d'autres régions de la Belgique. Mais on peut imaginer qu'au moins dans les premiers jours de la vague, l'armée belge n'a pas été prévenue pour que là aussi on puisse observer leur réaction spontanée. Ou bien alors, l'armée belge était bien au courant, mais le brave général de Broglie, tout en étant un homme tout à fait sincère et honnête, ben, pour lui, c'était pas être insincère et malhonnête que de dire ce n'est pas vrai, c'est pas l'armée. Parce que quand il y a une manœuvre secrète, par définition, ben, l'armée ne le dit pas. Et il faisait son devoir en disant qu'il ne savait rien. Voilà. Je sais bien que ça fait choquer certaines personnes, mais moi, c'est ce que je pense profondément. Donc voilà quelques pistes d'interprétation. Alors maintenant, Jean-Michel, si tu as des questions plus précises à me poser, je t'écoute.
Parlons peut-être un peu de la dynamique de la vague. Je crois que la SOBEPS fait grand cas du démarrage soudain et du nombre d'observations importants lors de la première nuit. Comment tu peux nous parler un peu de la dynamique de la vague, plus d'un côté sociologique peut-être?
Pour le 29 novembre 89, il est certain que là, on a des témoignages qui sont totalement spontanés. Que là, il faut trouver une explication, donc j'en ai un peu parlé, des diverses interprétations possibles. Là, il n'y a pas de problème, il s'est passé quelque chose qui n'a pas actuellement encore reçu d'explication vraiment convaincante, même si, donc, à mon avis, il y a des hypothèses bien plus simples, plus terre-à-terre que l'engin extraterrestre. Mais la SOBEPS, qui était tombée un peu en léthargie dans les années précédentes, parce qu'il n'y a plus d'observations vraiment importantes en Belgique depuis plusieurs années, la SOBEPS, il faut le reconnaître, a démarré au quart de tour. Immédiatement, des enquêteurs qui n'étaient plus venus depuis des années se sont présentés à la SOBEPS et ont repris la route, coordonnée par Lucien Clairbeau, qui est un excellent organisateur. La SOBEPS a fait de nombreuses enquêtes, a obtenu rapidement donc des interviews dans la presse, dans la radio, la télévision, a passé des appels donc à témoignages dans la presse. Elle a créé une ligne donc téléphonique spéciale. Donc avec répondeur qui enregistrait les témoignages. Et ça a été créé rapidement, quelques semaines à peine après le début de la vague. Et donc la SOBEPS a recueilli, au fil des mois, plus d'un millier de témoignages qu'elle considérait comme vraiment intéressants. Alors, le premier jour, là, il y a vraiment une spontanéité des témoins, le problème est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dès le surlendemain, toute la presse belge, côté Belgique francophone comme Belgique flamande d'ailleurs, publiait un compte-rendu détaillé de ce qu'on avait vu le 29 novembre. Donc dès le 1er décembre, tout citoyen belge qui lit un journal, qui écoute la radio, qui regarde la télé, savait à quoi devrait ressembler ce qu'il avait observé. Donc là, la spontanéité est perdue et les gens se sont mis à voir des ovnis triangulaires partout. Il est vrai que tout géomètre vous dira que si on jette trois points au hasard sur une surface, ça forme nécessairement un triangle. Alors, il y a de nombreux avions de ligne, notamment à Bruxelles, des avions qui s'apprêtaient à atterrir à l'aéroport de Zaventem ont été pris pour des ovnis. De même, un hélicoptère sanitaire qui se rendait à l'hôpital. Même des poteaux d'éclairage public à l'horizon ont été pris pour un ovni proche du sol. Bon. Ceci dit, comme j'ai dit aussi, il reste des observations qui sont évidemment plus complexes que ça, et il faut tout de même supposer une explication un peu moins banale. Mais ce n'était plus la pure spontanéité. Et au bout de quelques mois, évidemment, la vague a commencé à refluer, et ce qui ne plaisait guère à la SOBEPS, et la SOBEPS a fait des relances. La SOBEPS avait notamment noué des relations assez étroites avec un journaliste d'un grand quotidien bruxellois. Et quand Lucien Clairbeau, l'animateur de la SOBEPS, a vu que le nombre d'observations baissait un peu trop, il a pris son téléphone, il a appelé son correspondant dans ce grand quotidien belge, et lui a demandé s'il ne voulait pas refaire un article sur la vague, ce que le juriste a fait, ce qui a relancé les observations. Alors, bon, ça, c'est un constat qui a été fait par les sceptiques depuis de nombreuses années, déjà dans le courant même de la vague, elle avait été faite. Alors, la SOBEPS a contre-attaqué en se lançant d'une étude, donc comparé des dates de publication d'articles dans la presse et des dates d'observation, pour conclure qu'il n'y avait pas de réelle corrélation. Mais ça, c'est une conclusion un peu naïve, parce que l'observation d'OVNI ne se fait pas nécessairement dans les jours qui suivent immédiatement la publication d'un article. Pour la simple raison que, tout banalement, le temps peut être mauvais, le ciel peut être bouché, nuageux, dans les jours qui suivent, à ce moment-là, il ne se prête pas à observer quelque chose dans le ciel. Mais, comme l'ont déjà dit d'autres sceptiques avant moi, comme Michel Monnery, l'influence est plus subtile. Les gens voient un article dans la presse, tiens, c'est curieux, ça, bon. Ils n'y songent plus guère, et puis le jour, ou peut-être plusieurs semaines après, le jour où ils voient quelque chose de bizarre dans le ciel, ils se disent, tiens, mais est-ce que ce ne serait pas ce truc dont j'ai entendu parler ou... D'ailleurs, certains témoins vont jusqu'à le dire franchement. Dans le témoignage livré à la SOBEPS, on lit des phrases du genre « Quand j'ai vu ces lumières dans le ciel, je me suis dit, ça doit être l'OVNI dont tout le monde parle. » Il n'y a pas moyen de montrer plus clairement l'influence sociale, l'influence de ce qui a paru, de ce qui a été dit auparavant sur les témoignages ultérieurs. Donc, c'est peut-être la vague où cette influence était une des plus fortes. Ça a été le cas en 47 aussi, lors de la toute première vague d'OVNI. Il y a une comparaison, à mon avis, intéressante à faire, parce que, donc, 24 juin 1947, que comme chacun sait, dès qu'on a touché un tout petit peu l'ufologie, n'est-ce pas, un certain Kenneth Arnold voit 9 engins de forme plus ou moins discoïdale, mais c'était pas des disques parfaits, c'était plutôt des espèces de plats à barbe avec une large encoche à l'arrière. Il voit donc 9 engins volants passer devant son propre avion qu'il pilotait. Bon, dans les jours qui viennent, la radio, les journaux diffusent largement l'observation de la presse américaine et ils qualifient les objets de scoop volants, de flying saucers en anglais. Alors que l'internaute avait simplement dit que ces objets avançaient de façon saccadée comme des pierres, comme des soucoupes qui ricochent sur l'eau. Bon. Et donc, soucoupe qui ricoche est devenue soucoupe volante. Bon. Et dans les jours qui viennent, d'autres observations, dont quelques-unes d'ailleurs se disent, qu'on n'a pas de contrôle, se disent antérieures dans le temps à celles de Kenneth Arnold, des tas d'autres observations sont communiquées à la presse, qui parlent cette fois directement de soucoupe volante. On avait dit aux gens que ça avait une forme de soucoupe, qu'est-ce que les gens ont vu? Des soucoupes. En 89 en Belgique, toute la presse, le surlendemain du 29 novembre 89, parle de triangles volants, et qu'est-ce que les gens voient la semaine qui vient? Des triangles. Y a-t-il moyen de mieux montrer l'influence de la presse sur ce que les gens voient? La soucoupe, d'ailleurs, est un peu passée de mode, apparemment, n'est-ce pas? Sans que les extraterrestres, n'est-ce pas, ont changé peut-être de mode de propulsion, ou bien se sont dit, les soucoupes, c'est ringard, c'est vieux jeu. Le triangle, ça s'est vraiment branché. J'ironise, mais enfin, il y a de quoi, je pense. Donc la SOBEPS a eu, mais je tiens à le préciser en toute bonne foi, parce que il faut bien dire que la SOBEPS, ce ne sont tout de même pas des naïfs complets. Ce sont souvent des gens posés, intelligents, cultivés. Il y a plusieurs universitaires parmi les membres actifs. Ce sont des gens qui ont toujours été très prudents envers les cas les plus fantastiques, les cas qui parlent d'enlèvement, donc de terriens à bord des ovnis, de contact avec un extraterrestre qui aurait révélé, des enseignements moraux auprès des terriens, en passant en général par quelqu'un de tout à fait fallome, enfin, ce qui est un peu curieux, mais enfin, non, la SOBEPS a toujours été très prudente envers ce genre de témoignage de rencontres avec extraterrestres. Elle a toujours dit, donc, que l'extraterrestre n'était qu'une hypothèse et pas une certitude, donc il faut reconnaître tout de même une prudence certaine chez eux. Et donc je pense que, en toute bonne foi, ils ne sont pas rendus compte que par leur relance dans la presse, ils contribuaient à entretenir la vague et ils contribuaient à faire en sorte qu'il y avait, je dirais, une autocatalyse des quatre triangulaires. D'ailleurs, il y a une anecdote qui, moi, me paraît assez savoureuse à ce propos concernant justement leur ligne téléphonique sur répondeur. Comme ils ont reçu des milliers d'appels, donc il fallait bien faire un tri, ils n'avaient pas la possibilité d'enquêter sur tous les cas. Donc, certains cas ont été éliminés, c'est la seule fois de ce que le témoin avait dit au téléphone. Et alors, quand le témoin ne décrivait qu'une simple boule lumineuse dans le ciel, eh bien, on n'a pas fait d'enquête par manque de temps. Par contre, si le témoin parlait d'un triangle au téléphone, on allait faire l'enquête. Et voilà comment les cas triangulaires deviennent tout simplement la majorité. Voilà. Et encore une fois, je trouve qu'ils l'ont fait absolument en toute innocence. Ils ne se sont pas du tout rendus compte que la proportion de triangles était ainsi mécaniquement augmentée par ce tri des messages sur les répondeurs. Mais n'empêche que c'était un élément qui a joué. Et donc, cette vague a malheureusement été, quelle qu'en soit la cause, en définitive, disons, les proportions des différents types d'observations, déjà rien que cela, assurément, ces proportions étaient déformées inconsciemment par l'action de la SOBEPS.
J'aimerais qu'on aborde aussi un peu les éléments plus tangibles. Donc, par exemple, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la photo de Petit Rochin, qui est quand même une des photos d'OVNI les plus célèbres dans le monde?
Oui, la photo de Petit Rochin, oui, là, évidemment, c'est toujours un peu délicat d'en parler parce que, sans impliquer des personnes, donc je ne citerai pas de nom, parce qu'il y a dans le milieu ufologique des personnes assez vindicatives et qui sont prêtes à aller en justice si on met, non pas en général leur bonne foi, parce que c'est pas ça qui est en cause en général, la plupart des témoins devenus les enquêteurs sur l'OVNI sont tout à fait sincères, mais si on laisse entendre que, disons que dans certains cas, leur croyance l'a emporté sur leur bon sens. Le Petit Rochin, c'est une très belle photo, montrant exactement ce qui a été vu par de nombreux témoins, donc le triangle, avec les coins coupés, avec les trois lumières blanches, jaunâtres aux trois coins et la lumière rougeâtre au centre. Alors, déjà, les conditions qui ont été prises sont assez curieuses. C'est un jeune homme qui apparemment s'intéressait pas vraiment à la question. Il a vu ça, tiens, il veut un truc bizarre là, tiens, je vais faire la photo comme ça, mais ça a traîné chez lui dans un tiroir pendant quelques temps, et puis on a parlé à des collègues. Bon, finalement, c'est arrivé aux oreilles d'un journaliste de local de la région où il habitait, qui lui a alors racheté tous les droits sur la photo. Élément, à mon avis, essentiel. Donc, le témoin lui-même s'est rapidement désintéressé de la question. Il était deux, c'était c'était un jeune homme et sa copine. La copine, elle, n'a pas dit grand-chose, apparemment, ça n'a pas frappé du tout. C'est quand même curieux pour un engin aussi bizarre vu de près, enfin, pour une fois, passons. Et donc, c'est après que ce journaliste local ait acquis les droits sur la photo que sa saga a vraiment démarré, parce que lui a vu l'intérêt qu'il pouvait en tirer. C'est bien pourquoi je préfère pas dire son nom, parce que il a veillé de très près sur les droits de la photo, pas question de la publier sans lui payer les royalties qui vont avec, à tel point que lors d'une conférence sur les ovnis où l'un des orateurs parlait de la photo de Petit Rochin, il n'a pas osé la montrer au public de craindre d'avoir des ennuis pour les détenteurs des droits. Bon, c'est vous dire. Bon. Alors, cette photo, bien sûr, des sceptiques ont essayé de reproduire, tout est identique, et ils sont, à quelques détails près, parvenus. Ah oui, mais il y a quelques détails près, évidemment, prétendent les croyants. Alors, je dirais que le problème, c'est que il n'y a pas qu'une seule manière de truquer une photo. Bon. On peut penser qu'on a photographié une maquette, mais une maquette, quel type de maquette, soit à quelle distance, de quelle taille, quel type de lumière. Alors, évidemment, quelqu'un a essayé de reproduire une photo, ne sachant pas comment a procédé le truqueur, citrucage. Il y a forcément quelque chose qui va ressembler, mais qui ne sera pas tout à fait identique, parce qu'il ne sait pas exactement les conditions dans lesquelles ont été faites la photo. Donc il y a des petites différences entre, il y a eu au moins deux personnes différentes qui ont réalisé une reconstitution de la photo de Petit Rochin. Donc il y a des petites différences, mais que peut-on en conclure? Pour moi, pas grand-chose. Hein. Il faudra faire de nouveaux essais, peut-être s'en rapprocher encore plus. Enfin, les gens n'ont pas que ça à faire. Mais il y a eu un remondissement dans l'affaire il y a quelques années, en sens que la photo a été confiée à un scientifique français, donc travaillant à Orsay, près de Paris, dans un centre de recherche tout à fait sérieux. Et par divers traitements de la photo, il a fait apparaître des espèces de traînées de particules qui entourent l'objet, qui font d'une lumière à l'autre, par un chemin courbe. Enfin, et donc, à ce moment-là, le physicien belge qui collabore avec la SOBEPS et qui croit dur comme fer qu'il s'agit bien d'un engin extraterrestre, vous voyez bien, c'est lié au système de propulsion, et donc c'est traîné de particules qui apparaissent sur le traitement photographique fait par ce professeur français, montre bien que la photo est réelle, que c'est pas un trucage, et que donc ça confirme que c'est un engin volant, et ces traînées sont liées à ce système de propulsion, etc. Alors, tout ça serait bel et bien si, par un hasard que je trouve quand même très curieux, ce professeur français qui a ainsi contribué à, entre guillemets, authentifier la photo de Petit Rochin, s'est également intéressé dans sa carrière à un autre sujet qui, tout de même, d'une scientificité un peu douteuse, il a analysé ce qu'on appelle la tunique d'Argenteuil. Argenteuil est une ville dans la banlieue parisienne dont l'Église conserve la tunique du Christ, la tunique que le Christ portait le jour de sa crucifixion. Alors, le professeur français en question, maintenant récemment décédé d'ailleurs, paix à son âme, analyse cette tunique. Il y a trouvé des tâches intéressantes, notamment la trace du portement de la croix sur l'épaule. Et puis, il a fait une comparaison entre la tunique d'Argenteuil et le Saint-Cyr de Turin. Et il a trouvé, comme par hasard, que l'une confirmait l'autre et réciproquement. Alors, moi, je trouve même curieux que la personne qui a cherché à authentifier tunique d'Argenteuil et Cyr de Turin soit la même personne qui authentifie une photo d'OVNI. Voilà. J'en dirai pas plus.
Pour terminer, quand même, j'aimerais qu'on aborde la question de la fameuse nuit et de la chasse des avions de chasse qui ont poursuivi un OVNI et de la détection radar. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, voilà, j'en dirai un mot très, très court, parce que c'est une affaire où même les croyants admettent que c'est expliqué. Alors, pas la peine, non. Pour un peu résumer pour les auditeurs, ça c'était le 30 mars 90. Donc, des gendarmes repèrent des lumières bizarres dans le ciel. L'armée de l'air donc fait décoller des chasseurs qui observent des échos bizarres sur leur écran, des échos apparemment d'engins volants qui ont des accélérations vraiment impossibles pour des engins terrestres. Alors évidemment, les bons croyants s'excitent, évidemment, il y a à la fois une observation depuis le sol, une confirmation radar, et puis une telle accélération, ça nous prouve, c'est un engin extraterrestre. Le problème, c'est que quand les enregistrements radar ont été analysés sérieusement, et après que c'était des perturbations tout à fait explicables du fonctionnement du radar, là je n'entrerai pas dans le détail, parce que moi-même, j'avoue ma totale incompétence en radar. Enfin, l'explication technique donc était donnée était tellement convaincante que même les croyants ont reconnu que c'était une perturbation du radar, qu'il n'y avait pas eu un engin réel, physique, qui avait fait une accélération extraordinaire. Quant à ce qu'avaient observé les gendarmes au sol, c'était des étoiles, tout simplement. Il y avait ce jour-là une inversion de température qui créait un scintillement exceptionnel des étoiles qui semblait donc bouger et donc en toute bonne foi les gendarmes ont cru que c'était donc des engins volants et non pas de simples étoiles. Donc je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en dire plus là-dessus puisque les croyants eux-mêmes l'ont admis. Et un point sur lequel je voudrais insister avant de conclure, c'est quand on parle de croyants et de sceptiques en ufologie, il faut quand même, je pense, bien préciser les choses. Hein. Des croyants, il y a vraiment de vrais croyants au sens quasiment religieux du terme. Je parlais tout à l'heure des gens qui prétendaient avoir reçu un message philosophico-moral de la part d'extraterrestres. Là, on a affaire à une foi de type vraiment quasi-religieux. Mais la plupart des ufologues qui se disent sérieux, et qui le sont d'ailleurs plus ou moins, parle bien d'hypothèse extraterrestre, même si cette hypothèse, qui dans bien des cas, confine à la croyance. Hein. J'ai un jour parlé à un collaborateur de la SOBEPS qui avait pris un peu de distance, et je disais, mais enfin, quand on parle à SOBEPS d'hypothèse, quand même, si on gratte un peu sous la surface, la croyance réapparaît. Et ce membre de la SOBEPS de me répondre, faut même pas gratter, souffler légèrement suffit. Donc on a là une hypothèse qui confine donc à la croyance, mais qui n'en est quand même pas vraiment une, et qui tout de même garde un aspect de scientificité, parce que si c'est extraterrestre, mais il faut essayer de trouver le mode de propulsion de ces engins, donc faire de la physique, et c'est comme des gens qui se veulent scientifiques, même s'ils ne parviennent pas toujours, et qui ont un respect, une admiration pour la science. Donc c'est assez différent, je pense, d'autres domaines du paranormal ou du parascientifique en général, où on trouve parfois un discours plus ou moins anti-scientifique. Dans le domaine de l'ufologie, c'est des gens qui se veulent scientifiques et qui le sont d'ailleurs de formation dans certains cas. Hein. Et donc le mot croyant est à nuancer. Le mot sceptique doit être bien défini aussi, parce qu'enfin, d'une part, de nombreux sceptiques, comme dire d'OVNI, sont d'anciens croyants. Et je veux dire que eux seuls, d'ailleurs, sont vraiment convaincants en tant que sceptiques, parce que les sceptiques de la première heure, ceux qui n'y ont jamais cru, ont sorti des explications parfois lamentablement stupides. Ils ne connaissaient pas le phénomène de l'intérieur, ils n'avaient jamais fait d'enquête eux-mêmes, et donc ils ne pouvaient proposer que des explications qui, comme je disais tout à l'heure aussi, finalement faisaient le jeu des croyants tellement ils étaient stupides et à côté de la plaque. Non, les sceptiques qui ont été d'anciens croyants sont eux, beaucoup plus dangereux, entre guillemets, pour les croyants, parce qu'eux ont étudié le phénomène de l'intérieur. Ils ont été membres de groupements ufologiques, c'était mon cas, hein, parce que, comme on dit en sociologie, dire d'où l'on parle. J'ai été longtemps, je me suis intéressé aux ovnis et je pensais que ça pouvait être extraterrestre, même si je n'ai jamais cru aux enlèvements ou aux contactés qui ont reçu un message philosophique. J'ai été parmi les premiers membres de la SOBEPS, ma carte de membre portait le numéro 16, j'ai collaboré à la revue de la SOBEPS, j'ai collaboré aussi ensuite à la revue française Lumière dans la nuit. Donc j'ai observé cela de l'intérieur et je me demande même parfois si je n'étais pas entré comme collaborateur actif dans une association ufologique, je ne serais pas resté plus ou moins croyant. Parce que c'est quand j'ai vu, disons, les glissements de raisonnement, les petits dérapages insensibles qui ne sont pas vraiment de graves erreurs de raisonnement, mais qui, accumulées, finissent par provoquer un dérapage du raisonnement vers une croyance qui n'est plus que scientifique. Si je n'ai pas pu observer ces petits dérapages accumulés, si je n'avais pas surtout, parce que je collaborais avec lui à la revue Lumière dans la nuit, connu de près Michel Monnery, qui était l'un des principaux animateurs de Lumière dans la nuit et qui est le premier en France à avoir déclaré qu'il ne croyait plus aux ovnis, ce qui lui a d'ailleurs valu une expulsion de la revue en question. Donc j'ai pu voir Michel Monnery évoluer, il m'a tenu au courant des évolutions de sa pensée, et c'est cela qui m'a amené à réfléchir moi aussi, puis à me dire au fond, il a raison, et si on applique son raisonnement à tel et tel cas, effectivement, ça marche. Et c'est ainsi que c'est donc devenu peu à peu sceptique. Ça s'est pas fait en un jour. J'ai pas un jour l'illumination. Mon Dieu, mais c'est bien sûr, l'OVNI n'existe pas. Non, j'ai jamais eu une telle illumination. C'est venu progressivement. Et d'ailleurs, moi je tiens toujours à bien distinguer le vrai sceptique du négateur, de celui qui nie a priori. Parce que celui qui dit les ovnis, ça ne peut pas exister, l'extraterrestre, ça ne peut pas exister, il ne pourrait pas venir nous voir, distance entre nous, etc. Moi je me garde bien de prononcer une impossibilité parce que la physique n'est pas terminée. Hein. Et peut-être que ce qui nous semble impossible aujourd'hui, au début du XXIe siècle, ne le sera plus d'ici 100 ans ou dans 1000 ans. Je me garderais bien de proclamer que telle ou telle prouesse physique est définitivement impossible. Ça me paraît assez orgueilleux de la part de l'être humain de proclamer cela. Ça, je le pense toujours, comme je le pensais quand j'étais croyant aux ovnis. Donc, je dis simplement, à la suite de Michel Monnery, que l'hypothèse extraterrestre n'est pas impossible, elle est inutile. Il y a moyen d'expliquer ça par des phénomènes bêtement humains, comme de graves erreurs d'interprétation, une certaine volonté chez certains de croire à l'extraterrestre, etc. Une influence sociale, une influence des croyances de notre époque sur le comportement des gens, et notamment sur leurs interprétations qu'ils observent quelque chose de bizarre dans le ciel. Donc, l'OVNI est pour moi inutile, mais je ne fermerai jamais totalement la porte à l'extraordinaire. Je pense que je ne tomberai jamais dans la négation pure et simple. Il faut, pour moi, être sceptique, c'est douter, quoi. C'est être prudent, c'est se garder de conclusions hâtives, c'est peser le pour et le contre, mais ce n'est pas et ce ne sera, je l'espère, jamais pour moi nier a priori. Donc, voilà, mais c'est difficile, c'est très difficile à faire comprendre pour ceux dont la foi aux ovnis demeure intacte. C'est très difficile à faire comprendre que simplement on pense qu'il y a plus simple et que nous sommes de bonne foi. C'est même notre bonne foi qui est difficile à faire comprendre pour les croyants. Pour eux, au fond, on a eu peur de s'impliquer à l'extraterrestre, on a eu peur des extraterrestres qui pourraient menacer l'humanité. Ou bien on a eu peur pour notre carrière, on a dû taire notre croyance parce que ça nous aurait nui. Dans mon cas, c'était que le contraire, parce que quand j'ai trouvé un emploi ici à Paris, la directrice du service où je travaillais, elle croyait à fond aux ovnis. Donc, si elle avait voulu ménager mon emploi, j'aurais plutôt dû rester croyant. Donc là, sur ce point-là, au moins, dans mon cas, ils ont tout faux. Mais, j'aurais eu peur de ça impliquer philosophiquement, etc. Donc, non, c'est pas possible de faire comprendre, c'est une évolution naturel, c'est un examen plus approfondi des faits qui nous a amené au scepticisme. Et je ne veux pas être confondu avec, absolument pas avec ceux qui ont nié l'OVNI dès le départ, comme ceux qu'on appelle, appellation non contrôlée, les rationalistes en France, auxquels on prête un pouvoir immense. C'est une sorte de fantasmes des ufologues, de l'influence occulte des rationalistes qui empêchent les autorités scientifiques de reconnaître que les ovnis existent. Non, ne tombons pas dans de tels fantasmes. Voilà.
En tout cas, merci. Et je pense que tu as fait un très bon résumé de la vague belge, qui est quand même un vaste sujet. Je crois que c'est une bonne introduction pour les auditeurs.
Bonjour Jean-Michel.
Au revoir.
Voici arrivé à la fin de l'émission. Pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin avec Jacques Scorneau, j'ai publié un article de sa plume sur le blog Scepticisme Scientifique. Et cet article s'intitule « L'hypothèse sociopsychologique, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas ». Il s'agit, comme son titre l'indique, d'une excellente introduction, présentation de ce qu'est le modèle sociopsychologique ou la MSP. Pour terminer, j'aimerais remercier les gens qui ont pris la peine d'écrire une revue, une critique du balado sur iTunes et qui ont mis des étoiles, qui ont mis aussi une note au balado. C'est très agréable et cela permet d'aider à faire connaître le balado. Donc merci aux quelques personnes qui ont pris le temps de le faire. Et si vous êtes un utilisateur d'iTunes, n'hésitez pas à vous y rendre et à aussi écrire une note ou une revue afin d'aider à faire connaître scepticisme scientifique. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement l'autre.
Your guru assures if you follow his regimen, you will become a most excellent specimen. The power to live on and on for all days is right at your fingertips if someone pays. He says that his aura will keep you alive for three easy installments of $10.95. Device he uses sucks out the bad juices and leaves no bad bruises. It simply deduces the proper percentage of X in your brain. This miracle cure leaves no permanent pain. And still,
you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that plan. But I still give a damn.
Your astral projections are coming along. Your chakra and chi are both growing real strong. Your cold disappeared after just 9 short days, all thanks to the words on the whole earth displays. Now due to the juices and pills and the creams, your body's lost toxins, whatever that means. You've stopped eating all of that sinister food. Your dinner tastes awful, so it's gotta be good.
And still, you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that shell. We disagree, but I still give a damn.
Ramification of treatments from holy men leaves me slightly queasy deep down in the abdomen. Convinced that the lives that they lead need adjusting, they drive to the bookstore and blindly start trusting the miracles and cures all laid down in black ink, never even bothering to stop and think.
That I do believe is the dollars and cents all these authors receive. If miracle wonders were held in their looks, why waste precious time and try selling their books? Why sit and wait for your publishing royalty? If one has real power, who needs real loyalty? If you could travel by thought to a mystical place, why go to book signings and vie for shelf space? Why would you wait for your agent to call you in vain and try to convince you he's worth 12%? Why would you bother with talk shows and a crazed publicist? Why deal with the people that repeatedly insist that you show them real proof that your powers exist? Hey, convince some real skeptics or cease and desist. For us, in 6 months from now, you folks will not be missed.
What is the moral that we all must learn? Especially those of us with money to burn. Before your eyes widen at the book on the shelf, think, is he helping you, or is he helping himself? You can't believe what a skeptic I am. Believe what a skeptic I am.